Alors nous avons l'habitude, depuis que nous avons repris nos cultes et qu'on ne peut pas avoir d'école du dimanche, nous avons l'habitude d'avoir une minute pour les enfants. Donc ce moment est venu. Et j'ai une question pour les enfants. À quoi vous pensez, les enfants, si je vous dis obéissance? Thibaut. Obéir. Oui, oui, bien sûr. C'est la racine du mot obéissance. Mais qu'est-ce que ça évoque comme idée, comme conséquence, comme implication? Oui?
Alors, être sage et respecter les ordres.
Respecter les ordres, oui.
Et être sage
et respecter les ordres. Ah oui, très bien, d'accord. Des ordres de? Oui. Bien sûr. Abigail?
Surveiller.
Surveiller. Surveiller. Surveiller quoi? Ah, surveiller les enfants. Donc là, tu te places dans le rôle des parents. D'accord, ok. D'autres idées qui viennent aux enfants sur l'obéissance? Comment vous pouvez imaginer l'idée de l'obéissance une fois que vous deviendrez adulte? Qu'adviendra-t-il de l'obéissance quand vous deviendrez adulte, les enfants? Oui? Obéir les règles que Dieu nous donne. Bien. D'autres choses? Est-ce que vous pouvez imaginer que quand vous serez adulte, vous n'aurez plus à obéir à qui que ce soit? Non. Ah, ça c'est catégorique, hein? Très bien. Oui? Eh oui, ça sera votre tour, hein? Très bien, merci. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série de prédications sur la première épître de Jean. La dernière fois, nous avons évoqué le but de cette épître. Jean souhaite équiper les croyants de moyens pour reconnaître s'ils demeurent dans la vraie foi. Et aussi, le pendant de ceci, c'est aussi de reconnaître lorsqu'ils se bercent d'illusions sur eux-mêmes, sur leur motivation, peut-être sur leur salut. Et aujourd'hui, nous entrons vraiment dans le vif du sujet, les critères qui permettent cette reconnaissance et leur mise en application. Et donc, le premier critère, nous le lisons dans 1 Jean, au chapitre 2, à partir du verset 3. Je lis. « Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit vivre aussi comme il a vécu lui-même. » Si nous gardons les commandements de Christ, commence Jean. Si nous gardons ses commandements, qu'est-ce que ça signifie, garder ses commandements? Eh bien, il s'agit ni plus ni moins de l'obéissance. Et parler d'obéissance à des adultes, ça pique un peu. Ce n'est pas exactement ce à quoi nous aspirons en tant que personnes majeures et responsables. Nous aimons rappeler le grand mandat que Jésus nous a confié. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Super, c'est l'aventure. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et oui, enseignez-leur à obéir, à m'obéir. Donc, notre premier critère de reconnaissance de la vraie foi, on pourrait dire, est un critère moral. On reconnaît les vrais disciples de Jésus à leur obéissance à leur maître, ce qui dit, c'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui. Quand l'Esprit de Dieu entre dans le cœur d'une personne, il incline cette personne à soumettre sa volonté à celle du Père. Peut-être des premiers signes les plus tangibles de cette inclination est de souhaiter être baptisé comme l'ordonnait Jésus. Mais bien évidemment, ça ne s'arrête pas là et ça continue par la mise en ordre de sa vie, la construire en cohérence avec le statut de disciple dont nous nous réclamons. Et comme pour bien enfoncer le clou, Jean dénonce au verset 4 comme une prétention déplacée le fait de se déclarer disciple de Jésus sans conformer sa vie à ses commandements, sans une vie d'obéissance à son Seigneur. En fait, ce n'est pas nouveau, hein. Rappelez-vous ces paroles de Jésus. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Quand je prends conscience de ce que le mot Seigneur signifie, c'est-à-dire celui dont j'accepte et désire même le règne sur ma vie, quelle hypocrisie ce serait de prononcer ce mot sans de Seigneur, sans qu'un désir profond de lui obéir ne m'anime. Donc l'obéissance, un premier critère moral de notre appartenance à Christ. C'est un critère qui se veut rassurant pour le vrai croyant, qui, bien qu'il pêche encore et en a conscience, perçoit monter en lui ce désir de ne plus pécher et de conformer sa vie à celle de son Seigneur. Par contre, Jean retire toute illusion à celui qui s'en tient à prétendre sans véritable désir d'obéissance, et pour que lui faire prendre conscience de son état, il va jusqu'à le qualifier de menteur, hein, c'est ce que nous avons lu, le pire étant peut-être pour lui de croire lui-même à son mensonge. Le deuxième critère est un critère social, et nous le lisons à partir du verset 7. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière, et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Au début de ce paragraphe, Jean se défend de faire de l'amour un commandement nouveau. Par contre, Jésus a dit texto à ses disciples qu'il leur donne un commandement nouveau, celui de s'aimer les uns les autres comme lui-même les a aimés. Alors déjà, dans un premier temps, n'oublions pas que nous sommes au moins 60 ans après la fin du ministère de Jésus. Le commandement est donc aussi ancien que l'évangile lui-même. Jean veut signaler par là que ce n'est pas un critère nouveau qu'il vient à l'instant de sortir de son chapeau pour étayer son propos. Si les lecteurs l'avaient oublié, il est grand temps de combler cette lacune au sujet de l'amour, critère social de notre appartenance à Jésus. Même Jésus, qui donne à ses disciples ce commandement nouveau de s'aimer les uns les autres, souligne déjà, malgré tout, sa préexistence dans la loi de Moïse, quand il rassemble une parole du Deutéronome, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force », et celle du Lévitique, « Tu aimeras le prochain, ton prochain comme toi-même ». Lorsqu'il rassemble ces deux commandements, il souligne déjà la préexistence de ce commandement. Et John Stott le commente ainsi, « La nouveauté chez Jésus résidait dans l'importance qu'il lui a donnée. C'était nouveau par la qualité qu'il lui a donnée. C'est pas nouveau, donc nous dit Jean, ça, la première fois c'est exprimé vraiment textuellement, c'est dans la bouche de Jésus, mais qui déjà en soulignait l'esprit existant auparavant. Et donc Jean estime qu'il est toujours bon de le rappeler. On retrouve la même construction que dans le paragraphe précédent. Celui qui aime son frère est dans la lumière, donc dans la vérité. Celui qui hait son frère est dans les ténèbres, et donc dans l'illusion, sinon le mensonge. Ce parallèle amour-lumière et son opposé haine-ténèbres est intéressant. Parce qu'il semble que l'amour est un peu fonction d'éclaireur, de guide. Il nous maintient sur un chemin où nous ne pouvons trébucher, ce qui en termes d'amour se traduit par le fait d'éviter de pécher contre nos frères. À l'opposé, la haine déforme nos perspectives. Tout d'abord, nous jugeons mal les gens, et cela a pour résultat que nous les haïssons. La vision que nous avons d'eux est déjà colorée par la haine. Seul l'amour pense juste, pense clairement, voit juste et équilibre notre perspective, nos jugements et notre conduite. Je cite là John Stott également. Deuxième critère donc, un critère social, un critère qui est l'amour. Et avant d'aborder le troisième et dernier critère, Jean fait deux apartés. Et le premier aparté concerne ses lecteurs, ceux à qui il s'adresse dans cet épître, c'est-à-dire les croyants. Et nous le lisons à partir du verset 12. « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commandement. » Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Après les points un peu difficiles que Jean a évoqués jusqu'ici, surtout lorsqu'il mettait en contraste l'amour et la haine, ou l'obéissance et la désobéissance, il semble vouloir rassurer ses lecteurs. La désobéissance, la haine, rassurez-vous, ce n'est pas du tout ce que je pense de vous. C'est un peu ce qu'il semble dire. Ce sont les faux docteurs qui sont dans l'erreur, et non pas vous, chers membres fidèles de l'Église. Et au contraire, il met là en évidence leur progrès. Alors, il semble s'adresser à trois classes d'âge, les petits-enfants, les pères et les jeunes gens. Et puis, donc, il fait cette déclaration, et puis il y revient une deuxième fois. Mais en réalité, il semble plutôt faire référence à trois phases de la vie du croyant. La première phase est celle qui suit la conversion. Vos péchés sont pardonnés, et désormais vous connaissez le Dieu de toute éternité. La conversion, le pardon des péchés et la communion avec Dieu est encore une expérience récente qui réjouit le jeune croyant. C'est le petit enfant, celui qui vient de naître de nouveau. Ensuite, il mentionne les pères. Ce sont les membres de l'assemblée, la phase où, de la vie du croyant, les membres de l'assemblée spirituellement adultes. Les premiers transports de joie de leur conversion est certes une expérience réelle, mais maintenant lointaine. Même les combats dont il est question à propos des jeunes gens font partie du passé. Ils sont parvenus à une communion profonde avec Dieu et leur connaissance de Dieu a mûri avec les années. Le temps passe, Dieu ne change pas, Dieu n'a pas changé comme l'ont fait les hommes, mais eux vivent consciemment dans l'éternité. Et enfin, entre les enfants, les petits-enfants et les pères, il y a les jeunes gens. Ils sont activement engagés dans la vie chrétienne, et qui n'est pas une simple réjouissance du pardon des péchés et de la communion avec Dieu, mais aussi qui est marquée par un combat quotidien contre l'ennemi. Mais au contraire, le pardon des péchés, la communion avec Dieu est pour eux une force sur le chemin de la sanctification, et déjà, ils remportent des victoires sur eux-mêmes et sur le péché. Ils mettent en application le conseil de Jacques de résister au diable, avec comme conséquence à venir promise que, n'ayant plus rien à attendre, il fuira loin d'eux. Résister à la tentation aujourd'hui est le meilleur moyen d'atténuer celle de demain et d'éloigner celle de la semaine prochaine. Et donc là, ce sont vraiment des paroles d'encouragement que Jean dispense à tous les chrétiens, où qu'ils en soient, dans leur progression avec le Seigneur. Elles mettent en évidence ce qu'est la vie chrétienne dans sa réalité quotidienne pour tout disciple véritable du Christ. Disciple, statut que Jean décerne sans réserve à tous les membres fidèles de l'assemblée à laquelle il s'adresse. Après ce premier aparté, il en enchaîne un second, qui sonne comme un appel à demeurer quand même vigilant. Verset 15. N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Or le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et donc dans ce second aparté, il est vraiment question du monde, ou plus précisément de l'amour du monde. Nous savons que le monde dans la Bible, le mot monde peut être employé avec deux significations. Nous avons chanté tout à l'heure que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde, c'est ses enfants, ses créatures qu'il a créées pour être en communion avec lui. Mais lorsque la Bible évoque le monde, dans le contexte qu'évoque Jean, elle parle non de la création de Dieu, ni des créatures, mais le système vers lequel les choses ont dégénéré sous l'emprise du mal et auquel le monde est maintenant totalement soumis. Et nous avons un rappel de tout ce qu'il a fait glisser dans cette situation. Trois choses. La convoitise qui est dans l'homme, traduit dans d'autres traductions plus anciennes comme convoitise de la chair, la recherche des choses agréables, tout ce qui procure du plaisir. Peut-être pouvons-nous voir déjà là l'attirance déjà malsaine pour l'arbre dont le fruit semblait apparemment bon à manger. La mise en garde de Dieu ne suffisant pas, il fallait en passer par l'expérience. Deuxième chose qui est mentionnée, la convoitise des yeux, ce qui flatte le regard, l'attirance pour tout ce qui brille. L'arbre était agréable à regarder, nous est-il dit dans la Genèse, sans se douter que plus je le regarde et plus je le convoite. Et enfin, l'orgueil dû aux richesses, orgueil de la vie dans certaines traductions. La Genèse nous dit précieux, hein, pour ouvrir l'intelligence, mettant en évidence un certain dévoiement des valeurs, un retournement des valeurs, les richesses matérielles, bien évidemment, mais peut-être aussi une recherche effrénée d'un statut social, la vantardise, la fanfaronnade, la vanité, la prétention, le paraître. Tout cela passera, dit Jean, tout cela passera, et ça n'a pas sa place dans la vie des croyants. S'ils ne se soumettent pas volontairement à la volonté de Dieu, alors ils seront soumis, malgré eux, à celle du monde. Et il leur rappelle, comme dans bien d'autres endroits de la Bible, de s'en tenir éloignés et plutôt concentrer leurs efforts sur la soumission à la volonté de Dieu qui caractérise la vraie foi qui les destine à la vie éternelle. Si nous revenons à la thèse principale de l'Épître, comment discerner que nous sommes dans la vraie foi? Peut-être avez-vous entendu il y a quelques années le slogan d'une publicité, un slogan publicitaire, qui vantait un yaourt. Ce qu'il fait à l'intérieur se voit de l'extérieur. Et peut-être c'est vraiment le sens de ces deux premiers critères. L'obéissance, critère moral, et l'amour, critère social. La présence de l'Esprit de Dieu en nous ne passe pas inaperçue. Ce qu'il fait en nous se constate de l'extérieur et se manifeste en particulier par l'obéissance au commandement de Dieu et par l'amour que nous portons les uns aux autres. Alors bien entendu, il n'est pas question de parler de ces choses de manière absolue, avec une échelle de graduation, parce que lorsque nous venons à Jésus, nous avons tous une histoire, plus ou moins longue, et nous ne partons pas du tout du même point. Déjà, une chose importante à savoir, c'est que personne ne part de trop loin de manière irrémédiable. Et la deuxième chose qu'il est important de considérer, c'est la dynamique, c'est la progression. Où que nous en soyons, petits enfants, tout frais éclos à une vie nouvelle. Jeunes gens en plein combat, victorieux sur la tentation et sur eux-mêmes, ou pères matures et remplis de sagesse. C'est la dynamique qu'il nous faut regarder, qui témoigne de la présence de l'Esprit de Dieu en nous, du caractère, du critère, des critères qui nous permettent de discerner si nous sommes dans la vraie foi. Et Jean en arrive ensuite au troisième et dernier critère. Pour discerner si nous sommes dans la vraie foi, le critère doctrinal. Mais ça, c'est pour la prochaine fois.